Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 23h09 sur la pendule de Mon Paris FM, au bout du foot, spécial Euro 2024, deuxième journée, c'est le débrief. La 17e édition de l'Euro 2024 se poursuit sur monparisfm.com, sur Mon Paris FM YouTube et également sur le média Facebook. Houdini, les bleus nous ont pratiquement déçus ce soir les amis. Des bleus bien ternes face aux Pays-Bas, zéro but partout, on va disséquer ça dans quelques instants avec tous nos consultants ici même autour de ce plateau. En première partie justement, nous allons évoquer chacun les faits marquants de ce match. En deuxième partie, on va analyser les performances des joueurs, les joueurs qui ont été performants, les joueurs qui ont été moyens et aussi les joueurs qui ont été décevants. Si toutefois, il y en a en troisième partie, on va se poser la question de savoir s'il y a des moments à vite oublier lors de ce match. Et puis ensuite, nous évoquerons les matchs de la journée. La Slovaquie qui a perdu face à l'Ukraine 2-1. La Pologne qui a également perdu face à l'Autriche 3-1. Et puis on va évoquer les matchs de demain, 22 juin. Géorgie, Tchéquie, Turquie, Portugal, Belgique, Roumanie. Et puis on va, si on a un peu de temps, évoquer la Ligue 1 justement avec les droits TV qui tardent à venir avec notre ami Stéphane. Et ensuite, si on a un peu de temps les amis, il y aura un petit quiz pour vous à la fin de cette émission. Ne pas oublier également que la 48e édition de la Copa América aux États-Unis avec l'Argentine qui a battu le Canada 2-0 hier en match d'ouverture. C'était donc du côté d'Atlanta. Et puis ce soir, ou du moins dans la nuit, entre vers 2h du matin, si vous avez le temps, vous avez l'occasion justement de regarder un certain Pérou face au Chili. Vous dire aussi que la CAN 2025 aura lieu donc officiellement du 21 décembre 2025 jusqu'au 18 janvier 2026. On aura le temps d'en parler au bout du foot. Analyse, commentaire, décryptage et pronostic. C'est parti. Avec Alfred ce soir. Salut Alfred.
Salut Malik.
Salut Stéphane.
Salut à vous.
Lucas, bien le bonsoir.
Bonsoir Malik.
Salut Eladj.
Salut Malik.
Mon cher, l'homme qui vient de Düsseldorf,
comment tu vas? Eh oui, en plus j'avais mis le maillot de l'équipe de France.
Ça va Philippe?
Ça va, ça va. Bon, ça pourrait aller mieux.
Bon, aujourd'hui t'es en studio avec nous, donc ça va.
Ouais, bien sûr.
Et puis vous dire qu'au bout du foot est réalisé par Kali et Jason Lindor. Les amis, comme je l'ai évoqué dans le sommaire, première partie, vous allez nous dire quel a été le fait marquant pour vous de cette opposition justement entre les Pays-Bas et la France. On le rappelle encore une fois, zéro but partout. On commence avec toi, mon cher Philippe.
Bah d'abord, c'est le premier 0-0 de la compétition, ce que Stéphane avait prédit dans l'avant-match. Et puis...
Pour une fois, il fait un bon
pronom. Oui, on se plante tous. Ouais. Et puis, le fait marquant, c'est le manque d'efficacité des Français. Voilà. Il y a eu quand même 2-3 grosses occasions où on doit pouvoir concrétiser, on ne l'a pas fait. Voilà. Donc, une nouvelle fois, c'est récurrent, c'est ce manque d'efficacité des Français depuis quelques matchs.
Manque d'efficacité pour Philippe et toi, Eladj?
Moi, franchement, bon, déjà, j'ai aimé commenter cette rencontre avec Darius, en espérant qu'Abou aussi va se remettre d'aplomb très bientôt. Franchement, c'était un match un peu terne. Il manquait cette rapidité, cette folie, cette ambiance où voilà, Barcola qui se lance dans la profondeur, Barcola. Il manquait ce petit. Voilà, on n'a pas eu. On a eu Marcus Thuram, déviation, le raté de Marcus Thuram. C'est ça, on a eu le droit à ça. Le gros raté de Griezmann deux fois. Griezmann qui ralentissait à chaque fois le jeu. Faut savoir que chaque ballon passe par Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui est la plaque tournante un peu de cette équipe de France. Du coup, dès que lui ralentit le jeu, bah ça va être bridé, et dès qu'il ouvre le jeu, ça va aller plus vite. Du coup, c'est à lui de chercher ses ballons, et ça a trop manqué. Franchement, ça a peiné, et j'en veux énormément à Didier Deschamps ce soir, parce qu'il n'a pas fait les bons choix, selon moi. Il n'a pas fait les bons choix du tout, et il voit comment c'est, et franchement, il réagit pas bien pour moi. Du coup,
donc, selon toi, l'équipe de France a manqué de folie.
Oui, ils ont manqué de folie, et je pense qu'ils peuvent être contents de ne pas avoir perdu ce soir.
Ça va te perdre.
De folie pour toi, et là, Lucas, ton fait marquant.
Moi, ce que je retiens du match, c'est surtout la stérilité des Bleus. Donc, évidemment, il y a
On marque pas. On a marqué un but contre son camp pour le premier match. Là, on marque pas. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun buteur français qui a inscrit son nom au tableau d'affichage. Moi, c'est ça que je retiens. Ouais. Je retiens aussi, comme l'ont dit mes collègues, le peu d'intention, en fait, de l'équipe de France qui est, stérile. Parce qu'elle ne marque pas, mais aussi stérile dans ses intentions. Il n'y a pas beaucoup de jeux. On a eu des très grosses occasions, mais qui ont été amenées sur des à-coups. Il n'y a aucun moment où on a eu 15 minutes de grosse domination. On les a un petit peu acculés. On n'a pas eu ça. Je trouve que c'est un jeu qui nous endort tous. Et je regrette de ne pas avoir vu Barcola ou Kamavinga, ou au moins pas un milieu de terrain en moins. Parce que pour moi, Tchouaméni, il était de trop. Dans ce match, Tchouaméni ou Rabiot, il y en avait un qui était de trop. C'est, voilà.
Qui a fait un bon match, Tchouaméni, quand même. Hein.
J'ai pas aimé. Il y a deux ballons.
On va faire le tour d'abord.
Pour moi.
Mais non,
Stéphane, ton fait marquant.
Moi, c'est mon côté positif. Je vais dire que mon fait marquant, moi, c'est l'imperméabilité de l'équipe de France. Mmh. J'ai senti quasiment, à part en tout début de match, là, effectivement, quand on a eu très peur, quasiment.
Sur l'intervention de Maignan,
ouais. C'est sûr que ça n'a pas aidé parce qu'on en parlera plus tard aussi. Assez déçu quand même par les Pays-Bas qui, en deuxième mi-temps, ont passé pratiquement, au moins la dernière demi-heure, tout leur temps à balancer des longs ballons devant. Et, mais on a senti une sérénité. On n'a jamais été quasiment inquiété derrière.
Alfred, ton fait marquant.
Moi, personnellement, je pense que je ne sais pas si la préparation elle a été bien faite, parce que là, je ne vois pas l'équipe nationale s'exprimer correctement. On ne voit pas de jeu. Donc, pour ce match, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'inquiétude pour la suite.
Donc, pour toi, l'équipe est mal préparée. Tu as senti une équipe qui n'est pas au point. Quoi, physiquement, tactiquement?
Dans le jeu, parce que pour moi, il n'y a pas de construction. Donc, quelque part, j'ai un peu d'inquiétude pour pouvoir avancer. Même si Kylian Mbappé reste blessé, mais j'ai un peu d'inquiétude.
Merci, les amis. À présent, on va analyser les performances des joueurs qui ont été donc alignés par Didier Deschamps. Comme je vous l'ai dit, on les a repartis donc en trois catégories. Les joueurs performants, les joueurs que vous avez trouvés moyens et les joueurs que vous avez trouvés décevants. On va commencer justement par les joueurs que vous avez trouvés performants avec toi, Eladj. Tu as trouvé qui performant ce soir ?
N'Golo Kanté, toujours dans son registre, hein, je trouvais que N'Golo Kanté a été bon aujourd'hui. Aurélien Tchouaméni, moi j'ai aimé son match à Aurélien Tchouaméni aussi, qui décrochait beaucoup, qui donnait des longs ballons. C'était les seules transversales qu'on voyait, de toute façon, sinon il n'y en avait pas, tout simplement. J'ai vu aucune transversale d'aucun autre joueur, si ce n'est Aurélien Tchouaméni. Maintenant, N'Golo Kanté s'est beaucoup plus projeté, parce qu'on a pu voir que Tchouaméni jouait un peu plus bas. Moi, c'est les deux joueurs vraiment que j'ai aimé. Mike Maignan aussi, qui fait un très très gros match, hein, Mike Maignan, parce qu'on pense aussi à la première petite parade où on la touche du bout des doigts et d'autres parades qu'il a pu faire. Et à part ces trois joueurs-là, Griezmann, pour moi, aujourd'hui, ça a été dans
Non, on va y revenir. Pour l'instant, on va rester sur les joueurs performants. Et toi, Philippe?
Ben moi, Kanté, et puis effectivement, derrière, Saliba. Saliba, et puis effectivement, aussi Rabiot, puis Tchouaméni, un deuxième monde.
Alfred ?
Alors, je dirais simplement Saliba et N'Golo Kanté. Ouais. Je pense que c'est les deux qui ont quand même apporté quelque chose, surtout un peu de sérénité au niveau de Saliba. N'Golo Kanté, il a joué son rôle. Donc, quelque part, ce n'est pas un buteur. Il a eu des occasions, mais voilà, c'est une modeste personne. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait son job, mais c'est Saliba quand même qui a quand même apporté de l'assurance au niveau de
la
défense.
Il a fait un beau match derrière.
Ah, voilà. Enfin, pour moi, pour l'instant, il est prometteur à ce poste.
Stéphane, est-ce que tu peux relever comme ça des joueurs qui ont été performants côté français ce soir ?
Ouais, j'ai du mal à comprendre comment on peut séparer sur ce match Saliba ou Upamecano. Moi, pour moi, c'est la charnière centrale.
Oui.
Et Maignan. C'est la charnière centrale. Il y a une petite hype Saliba, donc tout le monde parle de Saliba, mais je ne l'ai pas vu meilleur que Upamecano. Bon, bref, mais en tout cas, tous les deux ont été très bons. Je vous dis, moi, j'ai quasiment jamais été inquiet sur le fait de prendre un but. Quoi. Je veux dire, ça a été. Il y a même eu très très peu d'occasions quand même.
Mais cela dit, il y a un but quand même qui peut être accordé. Hein. Moi je sais pas. Ça aurait pu.
Le plus logiquement.
Refusé pour toi. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Côté arbitrage, je suis d'accord avec toi. Mais bon. Je veux dire, en d'autres temps, dans d'autres situations, on a vu ce type de but être accordé.
Il faudrait qu'on regarde les images, mais je pense que clairement.
Non, mais il y a une gêne. Il y a une gêne manifeste. Maignan ne peut pas intervenir, c'est sûr.
Il le montre tout de suite. C'est le truc le plus clair qu'il y a. Qui ne peut pas intervenir. Alors effectivement, tout peut arriver. Il aurait pu être accordé. Le but aurait pu être accordé. Mais bon, par ça, une frappe comme ça sur un corner qui revient, il y a eu, bien sûr, j'exagère un petit peu quand je dis qu'il n'y a quasiment eu aucune occasion, mais je trouve qu'il y a eu très très peu. Quoi. Ils ont été très, comme moi, très déçus par les Pays-Bas. Mais en tout cas, bien, quatrième clean sheet, je les compte hein, à chaque fois, je vous le dis, quatrième clean sheet de l'équipe de France.
Et toi, Lucas ?
Moi, j'ai beaucoup aimé Maignan déjà parce que dès le début du match, il nous sort un arrêt qui change le match.
Clairement, il était concentré, le garçon.
Dès la première minute, il était là et je trouve que Maignan, il s'est pas mal blessé dans les temps, mais il montre qu'il est vraiment top gardien, top niveau et c'est très rassurant d'avoir ce profil dans les buts. Je rejoins Philippe, la charnière centrale, enfin, et Stéphane aussi. La charnière centrale, Saliba ou Upamecano, tous les deux très bons. Moi, j'ai aimé le match de Jules Koundé aussi. Je trouve que Jules Koundé est sérieux, que c'est pour ça qu'on n'a pas été inquiété. Et au milieu de terrain, je trouve que N'Golo Kanté a fait le travail. Donc voilà, c'est les 5 joueurs que je ressortirai. J'ai trouvé vraiment bon ce soir.
Côté joueur que vous trouvez moyen, voire décevant, Philippe.
Ah bah moyen Griezmann. Hein. C'est pas le Griezmann des années précédentes. Hein. Il manque ce jus, il manque ce peps. Et puis une nouvelle fois devant, parce que on n'arrive pas à se créer d'occasion et surtout à les concrétiser. Voilà.
Et toi, Eladj ?
Moyennement, je dirais.
Voire décevant. Hein.
Oui.
C'est selon.
Ah, voire décevant. Ah, ah ouais. Non, décevant, oui. Antoine Griezmann, ultra décevant. Oui. Moi, Antoine Griezmann, dans le dernier geste, c'est un capitaine. Là, c'est le capitaine. Il porte le brassard. Il doit mettre l'équipe sur de bons rails. Quand tu as des occasions comme ça, tu dois les mettre au fond.
Mais il n'est pas bon. Il n'est pas bon.
Il n'est pas bon.
Depuis les matchs amicaux, les matchs de préparation, il est moins bon.
On se disait peut-être qu'il va monter en puissance ou quoi. Et là, dans ce genre de rencontre, on attend parce qu'il y a la place.
Il est cuit physiquement.
Il a eu les plus grosses. Oui, je crois qu'il est cuit physiquement aussi. Il a eu les plus grosses occasions et il n'a pas su les mettre au fond, ça a été compliqué, même les frappes ils sont dégueulasses, en vrai il faut se dire la vérité, franchement ça a été ultra décevant. Marcus Thuram, il n'a pas pu faire grand chose, il a fait quelques belles choses quand même, faut le reconnaître, il a quand même fait quelques belles choses, mais je l'attendais moi vraiment dans la surface, comme point d'appui en profondeur, couper les ballons ou quoi, et il n'a pas fait des ballons dans ce registre là.
Mais ça tout dépend aussi des consignes qu'on lui donne, hein.
Oui,
parce que moi je le voyais beaucoup revenir, donc c'est peut-être aussi. Je pense que c'est peut-être aussi sa titularisation est peut-être aussi liée à ses qualités athlétiques, physiques justement, qui lui permettaient de revenir. Moi j'ai eu l'impression quand même que dans la composition d'équipe de base, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même une relative crainte de la part de Didier Deschamps. Moi c'est comme ça que j'ai vu. Dès que j'ai vu la composition d'équipe, comme tu disais Lucas à juste titre d'ailleurs, hein, quand je vois comment il s'appelle Rabiot. Et Tchouaméni, moi pour moi c'est les mêmes. C'est soit tu mets Rabiot, soit tu mets Tchouaméni. Mais quand tu mets les deux, il y a comme déjà de l'intention de reculer, de gérer un éventuel 0-0 et ça pas loupé.
Tu vois aussi que je peux revenir
là-dessus. T'as joué pour ne pas perdre, t'as pas joué pour gagner.
C'est un peu le système qu'avait fait Deschamps en 2018, on en parlait tout à l'heure avec Matuidi qui avait un rôle hybride entre milieu et ailier gauche, mais là ça peut pas marcher. Je veux dire,
Rabiot, mais t'as Mbappé de l'autre côté.
Matuidi faisait ça,
je suis d'accord. Mbappé, Dembélé il jouait bas, il était en bas.
Rabiot n'est pas hyper actif comme Matuidi l'est. Ça veut dire que tactiquement ça n'a aucun sens, moi je trouve.
Rabiot, franchement, je suis déçu, il
n'est pas à sa place.
Il n'est pas à sa place. Moi je suis déçu en tout cas du coaching aussi, parce que Didier Deschamps rentre aussi dans cette case là. Je suis énormément déçu de Didier Deschamps qui n'a pas pu prendre autant de risque et qui reste à chaque fois dans cette sûreté-là, je garde un petit match nul et je cartonne la Pologne derrière et ensuite on passe. Oui, mais c'est quand que t'as des matchs références, c'est quand vraiment tu nous emballes, tu nous proposes du beau jeu et c'est quand vraiment... Non, Barcola, tu le prends, tu le fais pas jouer une minute. Une minute, sérieux?
Pour l'instant.
Non, mais même pour l'instant, ça fait déjà trop. Là, Mbappé, il est blessé, t'es obligé de mettre Barcola. Tu le fais même pas jouer 10 minutes. Non, mais je lui en veux.
Après, on est pause entraînement.
On a vu, il a joué contre l'équipe, là, les jeunes, là. Il a mis un triplé contre les jeunes, on a vu, il les a laissés jouer. Il a mis un triplé, il est en grande forme. Il est rentré la première fois avec les Bleus, il a fait une passe décisive. Non, faut arrêter.
Après, ton sentiment, les joueurs moyens, voire les joueurs décevants?
La déception, c'est Ousmane Dembélé. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait en ce moment, parce que franchement...
Non, mais Ousmane Dembélé, on va dire qu'il est un peu coutumier du fait aussi. Hein. Moi, je trouve que vous êtes très tolérant envers Ousmane Dembélé. Ça fait un moment que je le dis régulièrement, depuis la campagne de Ligue des Champions, mais à chaque fois, vous me dites non. C'est vrai que c'est un joueur qui est doué, c'est très joli ça caresse le ballon, ça fait des dépassements à chaque fois. Mais côté efficacité et côté passe décisive, moi je suis désolé, mais c'est très très en dessous.
Ça fait deux matchs où il est présent. Et pendant ces deux matchs, il crée du danger, il va pas jusqu'au bout. Mais il est mis pourquoi? C'est ça qu'on se demande, parce que quand t'es un ailier, t'es là pour donner le ballon.
Et même marqué parfois.
Et encore, si j'ai bonne mémoire, il a failli commettre la même erreur qu'il a commis en Coupe du Monde. Il a failli occasionner un penalty là, dans ce match-là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que quand on vient en sélection nationale, on vient pour faire quelque chose. Et là, on voit que ça continue avec lui.
Là, t'aurais voulu la casette, hein, toi. Hein. Je vois avec ton maillot olympique. Non,
mais là, c'est pas mal.
Non,
c'est
pas là, il y a quand même un peu une obsession.
Stéphane, ou non, quelle obsession
Il y a une Ousmane obsession.
Dembélé. Attends, tu
non, pas, mais oui, j'ai vu le match. Ousmane Dembélé.
Mais à quel niveau, quelle obsession là, à quel niveau
De sa part, quoi. Qu'est-ce qu'il faut pour faire
Non, mais c'est pas une obsession.
C'est un acharnement. Oui, c'est son avis, bien sûr. C'est son avis. Mais je dis, c'est un acharnement. Oui, effectivement. Aussi,
hein. Mais justifié.
Effectivement. Non, justement.
Non, je pense que c'est pas justifié du tout.
Il fait pas il a pas été très bon. Il a pas été bon. Alors, je sais, je connais ta réplique que tu vas sortir, que tu es en train de préparer de sortir, Malik. Un tel joueur, comme ça, on attend qu'il fasse beaucoup mieux que
ça. Bah oui, c'est ce qu'on attend.
D'accord. Mais.
Mais si toi, t'es satisfait d'Ousmane Dembélé, c'est bien.
Est-ce que vous êtes.
Comment je te dis quoi?
Est-ce que vous êtes satisfait?
Non, monsieur, tu penses que Ousmane Dembélé, dans la position dans laquelle il est.
Mais je vais pas.
Avec les qualités qu'il a, si tu trouves que avec autant de sélections, il soit à moins de, je sais même pas, il doit avoir 5 ou 6 buts en 40 et quelques sélections. Si tu trouves que c'est un bon ratio, c'est bien.
Je suis plus satisfait sur ce match. Là, on parle de ce match, on parle pas de la carrière de Ousmane Dembélé.
Ouais, mais c'est un ensemble. Aujourd'hui, c'est la goutte d'eau.
Je suis plus satisfait sur ce match de Ousmane Dembélé. Ou moins déçu que de Griezmann, que de Thuram.
Non, mais je suis désolé.
De Rabiot.
Griezmann, on connaît son niveau en équipe de France. C'est un champion en équipe de France. Et même à l'Atlético.
Sur ce match-là.
Il n'est pas bon depuis la préparation. Exactement. Aujourd'hui, il n'est pas bon. Mais donc, Ousmane Dembélé, c'est régulier.
D'accord, ok. Donc, toi, aujourd'hui, on parle des gens qui n'ont pas été satisfaisants contre les Pays-Bas. Et tu me parles d'un joueur. Entre guillemets, vous vomissez votre rancune sur un joueur. Encore une fois, je suis pas en train de te dire.
On est en train d'analyser gentiment.
Le match.
On est des passionnés, mais il n'y a pas de vomissement, il n'y a rien du tout.
Mais restons sur le match. Sur le match, tu ne peux pas dire que Ousmane Dembélé, ça a été dans les trois cas, il a été décevant, notamment particulièrement en première mi-temps, et encore, il faudrait une grande analyse.
Mais tactique. On est déçu, pourquoi? On est déçu parce qu'on en attend beaucoup de quelqu'un.
Je pense qu'en première mi-temps, je pense, pour ma part, qu'en première mi-temps, il a pâti d'une mauvaise organisation tactique sur le terrain. C'est clair que pour moi, il n'y a quasiment aucune entente cordiale ou pas entre Koundé et Dembélé dans le côté droit. Il a joué beaucoup trop bas, donc il avait toujours deux joueurs sur lui. En deuxième période, ça a été un petit peu mieux. Moi, je lui reproche juste de pas avoir assez provoqué. J'aimerais le voir plus rentrer dans les 18, provoquer des pénaltys.
Ah, tu lui reproches quand même quelque chose.
C'est ça qu'on attendait.
Non, mais je reproche plein de trucs. Je pense qu'il fait partie.
Non, mais t'as dit que c'était un top player et qu'il fallait pas remettre en cause sa prestation de ce soir.
Ça va agacer énormément, ça. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est un acharnement. Il y a des joueurs dans l'équipe de France ce soir qui ont été bien moins bons que lui. Prenons par exemple l'exemple type. On a expliqué pourquoi, d'ailleurs, le match contre l'Autriche, il faut savoir que Thuram est le deuxième joueur du match à avoir le plus couru derrière N'Golo Kanté. Donc on comprend pourquoi Deschamps le met sur le terrain.
Mais il court dans le vide.
Ouais, peut-être. Oh, mais par exemple, non, mais oui, mais moi, je suis beaucoup plus déçu. Quand je vois les changements pour faire entrer Coman, qu'on peut parler aussi de la rentrée.
T'es déçu de qui? De Deschamps? Des changements de Deschamps?
Non, de Thuram par rapport. Je suis plus déçu de voir Ndembélé sortir à un.
Mais moi, je vais te dire pourquoi je suis pas plus déçu que de Thuram. Je suis pas plus déçu de Thuram tout simplement parce que son niveau, je pense. Et encore, je trouve que même qu'aujourd'hui, il a fait un meilleur match.
Oui, il a fait
un meilleur match. Moi, je suis même pas déçu de Thuram parce que son niveau, on le connaît. Mais Ousmane Dembélé, c'est un magicien. Mais c'est un magicien qui n'arrive pas à concrétiser. Et on est dur avec les génies.
Vous avez voilà, votre raison. Vous avez
pas reconnaître ça.
Était content du coaching de Deschamps.
C'est pas être méchant. C'est pas attaquer un joueur.
Mais j'aimerais qu'on m'explique.
Il n'est pas assez décisif.
Je pense que Deschamps y est peut-être pour rien. Est-ce que la pire daube qu'on a vue sur le match, c'est quand même la rentrée qui se les commande, quoi. Je veux dire, c'est honteux de faire ça, quoi.
Il était dans le même registre qu'Ousmane Dembélé, moi, je trouve. Dans le même registre,
Mais il n'est pas passé une fois.
Mais pourquoi il n'est pas passé une fois? Parce que
il
toujours entouré par.
Temps oui, temps.
Mais pendant 70 minutes, 75 minutes, 80 minutes. Ouais, il est rentré à 10-15 minutes
un quart d'heure de la fin.
Les changements aussi tardifs. Il y avait N'Golo Kanté, Ake qui était sur lui. Maintenant, quand tu rentres dans un match, il faut s'adapter. Dans un match, tu joues contre le Pays-Bas, t'as Gakpo et Ake, c'est compliqué. Il n'a pas pu faire mieux.
Le fait qu'il aurait mieux fallu faire rentrer quelqu'un qui a un profil différent.
Mais de... non, même Kingsley Coman, mais bien avant déjà, pour qu'il s'adapte, ouais, pour qu'il se mette en jambe, pour qu'il y ait des choses. N'Golo Kanté qui est aussi homme du match.
On va prendre l'avis de Lucas, justement.
N'Golo Kanté, homme du match, pour la deuxième fois pour son retour.
C'est très logique, c'est assez logique.
Et c'est même inquiétant. Ouais. Oui, Lucas.
Pour les joueurs moyens, je dirais Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, je suis un peu partagé entre ce que vous dites. C'est un de ceux qui a le plus provoqué. Il est passé, mais il n'a pas fait assez.
Comme souvent, il rate
des choses faciles et en fait, il n'est pas décisif. On a besoin d'un joueur qui apporte plus. Et moi, je trouve qu'en fait, on commence à voir son plafond à Dembélé et que son plafond, c'est pas celui d'un titulaire en équipe de France. Moi, Thuram, j'ai.
Carrément!
Ah oui, son plafond, il n'arrive pas à passer le step, à assumer qu'il est titulaire en équipe de France, à avoir le rendement. Plein de monde, franchement plein de monde.
Non mais dans le groupe là.
Là dans le groupe, déjà je ferai une réorganisation tactique et je mets Barcola avec Mbappé, peut-être Barcola déjà à droite, il est bon à droite, je mets Barcola à droite. Mbappé il va rejouer dès le match prochain, le match d'après. Sur le troisième match tu veux dire ?
Non mais ce match là, par l'instant, moi je vais débriefer de ce match là.
Ah si, j'aurais mis Dembélé, il a encore été mauvais, il a encore prouvé qu'on peut pas lui faire confiance. Thuram, il a fait plutôt un bon match quand même dans les déviations, il a apporté des choses.
Non, il a fait un meilleur match.
Il a fait un meilleur match.
En fait, c'est dans les moyens, on n'est pas dans les bons. Les bons, je les ai déjà. On est dans les moyens. Thuram a fait un match moyen parce que voilà, il n'a pas été disponible, pas assez dans la surface de réparation, mais il a fait quand même des. Il a été dans son rôle, je dirais. Et ça, voilà, il n'a pas été horrible. Moi, s'il y a deux joueurs qui m'ont beaucoup déçu aujourd'hui, c'est Antoine Griezmann et Théo Hernandez qui passe pour moi au travers des gouttes. Mmh. Théo Hernandez, il est mis là, c'est parce qu'il apporte beaucoup offensivement. Quand on regarde l'AC Milan, il a beaucoup de liberté sur son couloir et il fait des gros déboulés et tout, et Hernandez des centres pas précis, pas assez tranchants, donc moi s'il y a deux joueurs, on en a un peu parlé pour Griezmann, que je mets en dessous vraiment aujourd'hui, c'est Griezmann qui n'assume plus du tout son rôle de leader technique effectivement, ouais, mais et après je pense qu'il est pas aidé parce qu'il manque un créatif dans cette équipe, clairement il manque un joueur créatif.
C'était lui normalement
on en a parlé à la mi-temps en disant qu'un profil comme Nkunku aurait fait beaucoup de bien. Je suis persuadé que Christophe Nkunku aurait fait beaucoup de bien à cette équipe.
Les amis, arrêtez, il n'est pas en jambes,
on l'a dit encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, il y a 4 joueurs en activité en équipe de France qui ont été meilleurs joueurs d'une ligue majeure. Il y a Mbappé, Benzema, N'Golo Kanté et Nkunku qu'il avait été devant Lewandowski. Faut arrêter de faire comme si c'était n'importe qui. C'est un super joueur.
Il n'est pas en jambes, on dit pas qu'il est pas bon.
Tchouaméni, il est pas en jambes. Rabiot, il est pas en jambes. Il joue.
Mais regarde Coman, vous critiquez Coman de son entrée, mais c'est parce qu'il est pas en jambes.
Autant mettre un joueur créatif. C'est un joueur qui court en plus. Nkunku, c'est un joueur créatif. Il fait des passes.
Coman,
des joueurs. C'est le clone de Didier Deschamps.
Sans compter que Tchouaméni lui-même.
C'est le clone de Didier Deschamps.
Non, mais moi je suis un pro Dédé, mais aujourd'hui.
Depuis combien de temps il a pas joué Tchouaméni ?
Non, mais si, c'est
vrai. Il a pas joué 2-3 matchs. C'est tout. 2 matchs. Non, même pas. Il a joué que la finale.
Ouais, mais Stéphane, il joue,
c'est
pas qu'il était
gêné. Mais il était gêné en fin de saison.
2 semaines, même pas 2 semaines.
Stéphane, ce que tu dis, c'est grave.
Rien que la finale, c'était le 2 juin.
Je vais te sortir.
Non, mais ce que tu dis,
c'est 3 semaines. Un mois, en tout cas, sûr.
Tu vas combien un mois. Tu vas combien un mois.
Et de toute façon, il y avait 2 matchs. Il a loupé 2 matchs, Max.
Il a pas été un match de championnat avec le Real, non ?
Oui.
Ouais,
déjà champion.
La finale.
Et la finale.
Mais ouais. Stéphane, ce que tu dis, c'est grave. Bah,
regarde le temps. Je pense.
Non, mais il n'y a pas à regarder. Moi, je sais.
Non, mais c'est.
Mais tu peux pas comparer.
Dis-moi l'argent depuis quand.
Non, mais tu peux pas comparer. Tu peux pas comparer le temps de jeu cette année de Nkunku et de Tchouaméni. C'est même pas possible.
Non, c'est
ce que tu dis, c'est même pas possible.
Tu prends Coman.
Tu regardes la fin de saison.
Tu rajoutes aussi Nkunku.
D'accord.
Tu as deux pépins. Et tu le compares à Nkunku qui a tenté de revenir, qui s'est reblessé.
Non, je ne compare pas. Je dis que Deschamps a enflé.
La situation physique, je veux dire.
Deschamps a enflé tout le monde comme il sait très bien le faire en disant, en essayant de nous faire croire qu'il prenait pas Nkunku parce qu'il est revenu, c'est bien, mais il n'est pas encore au niveau, c'est trop tôt pour l'équipe de France. Moi, je dis que Nkunku, il a joué 3 fois 20 minutes les derniers matchs avec Chelsea. Il y avait 2 matchs amicaux avec l'équipe de France et qu'il aurait pu rentrer, mais c'est pas à la limite le débat, et qu'il aurait pu rentrer pour jouer une demi-heure avec l'équipe de France. Là, ça aurait été plus intéressant, d'après moi, pour par exemple suppléer.
2 semaines, du 11 au 25, il a pas été là. Pardon de te couper. Du 11 au 25, il a pas été là.
Du
11 au 25 mai, il n'a pas pu jouer
deux. Non, mais deux matchs. Il n'a pas fait de match depuis le 11 mai. Donc,
bon, je pense que c'est équivalent à 3 matchs à peu près.
Non, mais je dis pas là. Non, mais moi, je trouve ça à 10 000%, il fallait qu'il prenne Tchouaméni et tout ça. C'est un apport hyper important pour l'équipe. Hein, je suis tout à fait d'accord. Je dis simplement que c'est une fausse excuse pour Nkunku de ne pas l'avoir pris. À partir du moment en plus,
on va pas parler des absents de toutes les façons.
Ça manque de créativité.
Il a tellement joué 20 minutes à la place de Griezmann à la fin du match.
Il y a tellement à dire aujourd'hui sur l'équipe par Didier Deschamps. Donc si vous nous rejoignez à 23h33 sur mon Paris FM YouTube, sur mon Paris FM.com, l'équipe de France, pardon, a été tenu en échec, hein, si j'ose dire, par les Pays-Bas. Zéro but partout. Ensemble, nous débriefons ce match avec Alfred, avec Stéphane, Elag, Philippe et Lucas. Les amis, est-ce que, sans langue de bois cette fois-ci, encore une fois, hein, vous avez l'habitude, les amis, est-ce que vous avez des choses à oublier, mais vraiment que vous avez envie d'effacer de votre mémoire ce soir?
Les deux loupés d'Antoine Griezmann.
J'ai envie d'effacer.
Ouais, non, mais...
Ouais, les deux buts. Ouais.
C'est incroyable. Ah ouais.
Non, mais le deuxième, quand même...
Non, les deux, il contrôle. Le deuxième, il contrôle.
Il est encore
c'est
pire.
Encore pire, il contrôle.
Parce que dans le premier, on peut dire qu'il ne s'attend pas que Rabiot lui passe.
J'ai envie d'oublier, moi.
Et il y a une autre
chose. Non, mais pas tous ensemble. Et là, tu as dit les deux buts de Griezmann. Et toi,
les deux buts, il ne l'a pas marqué.
Enfin,
pas
les deux occasions.
Deux gros loupés.
Les deux Griezmann, et puis il y a eu aussi un loupé en début de match. Donc, il y a une action, je ne sais plus qui c'est.
Thuram ?
Oui, c'est
Thuram. Thuram qui l'a mis.
C'est celle-là. C'est celle-là.
Ah, l'action où il est un peu excentré côté droit, là.
Oui, il a le temps de se récentrer encore.
Moi, je trouvais même qu'il a bien joué. Parce que non, mais je regardais la.
C'est bon,
non,
c'est
mais,
bon.
Non, mais j'en viens. Laisse-moi argumenter.
Avant la frappe,
tu vas comprendre. Quand je dis ça, je dis ça par rapport au niveau du joueur. Si Mbappé fait ça, je lui tombe dessus. Mais quand Thuram fait ça, je dis, il joue en première intention. J'ai préféré ça parce que.
C'est un joueur professionnel,
non, mais
Malik.
Non, mais j'ai pas fini. Je le voyais même pas faire un crochet.
À l'Inter, quand même.
Je le voyais même pas faire un crochet intérieur pour tenter quelque chose. Je pense que ça.
Il avait rien. Il a juste fait un appel. La seule bonne chose qu'il a fait, c'est l'appel. Il y avait personne.
Il a joué en première intention.
Il y avait personne.
Connaissant le joueur, j'ai préféré qu'il joue en première intention. C'est mon avis. Je dis pas que j'ai raison, mais c'est mon avis parce que il aurait tenté un crochet. Je te jure. Ça allait être une dinguerie derrière.
Non, j'aurais aimé qu'il tente.
Oui, pour te moquer.
Non, pas pour te moquer, pour me dire, waouh, il l'a fait.
Alfred, est-ce que t'as quelque chose à oublier, justement?
Pour moi, c'est...
Que tu veux effacer de ta mémoire.
Adrien Rabiot, parce que le ballon qu'il avait, pour moi, il pouvait prendre le risque lui-même.
Oui, totalement, bien sûr.
C'est lui, il ne devait pas le donner.
Ouais, pour moi, il ne devait pas
le donner.
Mais s'il la donne, pour moi, c'est une sécurité. Comme moi, je dis à chaque fois, quand t'es deux devant les cages, t'es obligé de la donner. C'est un ketchup mayo. On appelle ça ketchup mayo dans le jargon.
Mais moi, j'aime pas
c'est
la
un ketchup mayo. Bah, j'aime le ketchup mayo. C'est pour ça que c'est
le
ketchup mayo.
Parce
que t'aimes le ketchup.
Mais t'aimes le ketchup.
Si, voilà. Bah, tu prends les deux quand même. Et ça te fait la sauce américaine.
Je préfère la moutarde.
Si on revient sur mon avis, donc moi, je pense que l'action de but, c'est celle que Rabiot a ratée. Pour moi, il devait pas faire de passe. Carrément. Voilà, moi, ça vraiment, si t'es quand même déçu de le voir. Donner le ballon, non. Il prend le risque, il marque, c'est tout.
Il n'a pas l'habitude de se retrouver dans cette posture-là.
On aura décanté la situation.
N'importe quel avant-centre, normalement, prend son tour. Effectivement, il n'a pas l'habitude. Mais c'est pour ça, moi, je ne vais pas non plus l'insulter. Mais effectivement, le truc que j'ai envie d'oublier, c'est ça. Parce que pour moi, quand il est servi, là, je crois que c'est une place de Thuram, d'ailleurs. Quand il est servi, je me dis c'est bon, il y a but quoi. Voilà. Je veux dire, il a but et en plus il la donne mal.
Mal, très mal.
Même quitte à la donner, donne-la bien. Mais en plus il la donne mal. Pourquoi? Peut-être qu'il la donne mal parce que c'était peut-être pas facile à donner. Bon, en tout cas, c'est ce que moi j'ai envie d'oublier. C'est pour moi il y avait but quoi. Il arrive tout seul devant le gardien et voilà.
Et même en la donnant, son positionnement avec Griezmann, c'est un gaucher. Le ballon, il pouvait le donner en retrait. Pour qu'il puisse avoir de la position pour pouvoir tirer. Mais là, il la donne sur le côté comme ça. Dans le dos.
Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, franchement.
Donc, quelque part, pour moi, il avait l'action.
Je pense qu'il aurait dû tenter. Voilà. Il aurait dû tenter.
Il ne serait pas culpabilisé, même s'il ratait, mais au moins, il aurait pris le risque de tenter.
Et puis, même, c'était le jeu qui voulait ça aussi, hein, à un moment donné. Lucas ?
Moi, je vais oublier tout le jeu de l'équipe de France. J'en ai marre de m'ennuyer devant les matchs. J'en ai marre qu'offensivement, on ne voit rien. J'en ai marre que. Tu sais, on est là, on discute des ratés de Griezmann, mais on a eu des espèces de miettes d'occasion qui n'étaient même pas très bien construites. Je veux dire, moi, je pense que la France a la chance d'être très, très solide, mais c'est typiquement le genre d'équipe. S'il y a une équipe qui lui met la pression, ça va exploser. Et pour moi, si on croise l'Allemagne, qu'on voit un petit peu depuis le début de la compétition et que l'Allemagne reste dans cette dynamique, ça peut faire 3-0 vite fait. Donc, jeu de l'équipe de France, j'en peux plus.
L'Allemagne a pas mal de failles aussi. Hein.
On les a vus avant-hier.
On les a vus avant-hier.
Ça respecte le jeu, l'Allemagne.
Faut pas non plus penser que l'herbe est plus verte ailleurs à chaque fois.
Un match, c'est contre un adversaire.
Qui met 7 buts et une équipe qui en met 0.
Vous parlez ensemble.
Un match, c'est contre un adversaire dénommé, quoi. Tu peux pas, surtout quand tu parles de l'équipe de France, la deuxième meilleure nation du monde sur le papier, finalement, tu peux pas dire, voilà, si on joue comme ça, quand ils vont avoir des bons attaquants, on va en prendre, quoi. Là, on a joué comme ça, c'est ce qu'on n'aime pas, effectivement, qu'on peut critiquer, le pragmatisme de Didier Deschamps. Il a joué comme ça face à cette équipe-là.
C'est la curiosité, c'est pas du pragmatisme.
Il a eu le résultat qu'il voulait avoir. Alors,
parce que la Pologne est éliminée, officiellement. Pologne éliminée.
On est tous agacés, machin et tout ça, mais n'empêche qu'il a eu ce qu'il voulait avoir, quoi. Il a eu ce qu'il voulait avoir. Il bat la Pologne, il termine en tête du groupe. Non, pas forcément.
Ouais, c'est ça qui joue. Bah oui, là t'as plus ton avenir entre les mains. Ouais, entre guillemets, faut cartonner la Pologne.
Non mais vu comment est-ce que c'est goupillé aujourd'hui, hein, c'est pas évident. Tu peux être deuxième et rencontrer le troisième, je crois, ou le premier, je sais même plus. En fait, on n'a plus dans la même logique qu'il y avait antérieurement, où effectivement, tu t'es forcé à être le premier pour rencontrer un éventuel plus faible. Aujourd'hui, tu peux être premier et rencontrer, ou même deuxième et rencontrer un costaud. Donc, il faut laisser les choses suivre leur cours.
C'est vrai que c'est pas lié à ce match-là, ça fait déjà quelques matchs, il y a ce gros problème de carence offensive. Et c'est ça. Et ça, c'est inquiétant. C'est la répétition des matchs où, effectivement, sur le plan offensif, si on enlève Mbappé, bah.
Mais cela,
vous en rappelez, hein, franchement. Vous en rappelez,
on c'est a la répétition cette... des matchs.
Oui, on a eu ce débat-là avec cette Mbappé indépendance. Ouais. Vous en rappelez?
Dépendance,
parce qu'il n'y a pas d'indépendance sans Mbappé. Il n'y a aucune indépendance. Et on avait ce débat-là, et on disait que sans Mbappé, déjà, c'est très compliqué. Déjà, avec Mbappé, tu sais qu'il faut que ça vienne de lui, il faut qu'il y ait un génie de lui, il faut qu'il y ait quelque chose. Mais sans Mbappé, c'est le néant. C'est le néant.
Avec un Griezmann à ce niveau-là aussi, ou un créatif, on ne reviendra pas sur un coucou, mais il manque un joueur créatif pour moi, en plus que de Griezmann.
Même si t'as un joueur créatif, il faut quelqu'un qui marque devant. Qui est en capacité de marquer aujourd'hui dans le 11 titulaire qui a été aligné? J'aurais préféré voir Giroud en pointe à la place de Thuram.
Honnêtement, j'aurais préféré avoir Giroud en pointe à la place de Thuram, mais dans
ce registre-là surtout. Oui, tu peux dire ce que tu veux, Stéphane, mais
non,
je te
mais
dis.
C'est plus possible.
Mais bien sûr que si. Giroud est un. Mais ça veut rien dire. Giroud joue encore au football. Thierry Henry, non. On parle des gens qui jouent. C'est le meilleur buteur de l'équipe de France. Dans cette équipe-là, dans ce registre-là, au moins sur les corners, sur les coups de pied arrêtés, on sait qu'on a un mec comme Giroud. Mais sur les coups de pied arrêtés, franchement, on n'avait aucune sensation de Van Dijk va mettre la tête et ça, on l'a perdu.
On peut chipoter sur le nom des joueurs, mais c'est pas, le débat, il est pas là. Le débat, il est juste sur l'organisation tactique. Parce que toi, tu vas dire, moi, j'aurais préféré
tactique
voir Giroud.
Et les joueurs.
Moi, j'aurais préféré voir Kolomouani, par exemple, en pointe,
qui est aussi grand, qui sait jouer de la tête,
qui sait jouer pivot, qui sait aller vite et tout. Donc après, on en est à la tactique. Moi, je dis juste, c'est le pragmatisme de Didier Deschamps. Il est comme ça, il a attaqué son match comme ça, au fur et à mesure du match. Ça, on a cru à un moment qu'on allait revivre Allemagne-Algérie, le fameux Allemagne-Algérie de la passe à 10, parce qu'ils savaient qu'ils allaient être qualifiés et tout. La France, il est pas bête, Deschamps, hein. Il va dire, je vais récupérer, je veux la Pologne, comme dit LH, ils sont officiellement éliminés, la Pologne.
On le connaît pour son pragmatisme, hein, Didier Deschamps. Est-ce que ce match, finalement, ne ressemblait pas à un moment donné à une finale? Une finale dans laquelle on attend les prolongations,
non,
les tirs au but,
non, pas je pense que non.
Moi, je sais pas, j'ai eu un peu ce parfum-là à un moment donné.
Je trouve que justement l'inverse, ça ressemblait très bien. Deuxième match de poule entre les deux favoris.
Les finales sont pas très, très belles, hein, la plupart du temps aussi. Hein.
Après, il faut reconnaître qu'il y a une.
Un match cadenassé, fermé, on attend la faille. Moi, j'ai eu comme ça ce sentiment-là.
Il y a une petite domination hollandaise, il faut reconnaître.
Mais il y a une domination française aussi.
Sur le match,
quand je veux bien que vous voyez les choses.
Non, quand j'ai une petite. La Hollande a été un peu supérieure par rapport à nous, il faut dire.
À quel moment?
Mais ils ont eu des actions.
J'ai tout entendu. En possession.
Non, Stéphane, ça, c'est les émotions. C'est le supporter, en fait. Mais lui, Alfred, c'est le supporter. C'est les émotions du supporter. T'as peur d'encaisser le but. Donc tu regardes pas le match avec le regard du consultant.
Non, je te comprends. La Hollande, elle a pas gagné.
Je te comprends.
Elle a légèrement mieux joué que nous.
La dernière demi-heure, ils ont pas fait trois passes. Ils ont balancé tous leurs ballons devant.
Non, ils ont mis le bus aussi.
À un moment, ils ont mis le bus. Ils ont balancé. Ils ont attendu très bas de récupérer le ballon, d'essayer de jouer vite en transition en balançant devant. Ils ont, en tout cas, déjà, le dernier souvenir, c'est la deuxième mi-temps. Ils ont strictement quasiment aucune occasion en deuxième mi-temps, si ce n'est ce corner, ce but, ce tir, en fait, de loin, dans une forêt de jambes qui a été, pour moi, en tout cas, logiquement refusée. Il n'y a rien, faut pas exagérer. Au contraire, j'aurais tendance à dire qu'il faut être deux pour voir un match de foot. À mon avis, regardons les chiffres. Statistiques du match.
Je donne un très simple. Les actions de coup de pied reçues par la Hollande. On suppose que la France avait eu ça. Elle pouvait marquer. La France, elle n'en a pas eu.
Bah, tu parles de quoi? Des coups francs, de Depay et tout ça?
Voilà, elle n'en a pas eu, la France.
On n'a pas du tireur de coups francs plus que ça chez nous.
Dans le match
Griezmann, de temps à autre.
Griezmann a tiré en début.
Dans le mur.
C'est vrai que l'équipe de France, on est tous unanimes, n'a pas été d'un bon niveau ce soir. Mais quid des Pays-Bas? Qui ressort pour vous au niveau Pays-Bas rapidement?
Xavi Simons.
Qui?
Xavi Simons.
Ouais.
Il a bien, dans le cœur, moi j'ai trouvé qu'il a été bon.
Ouais, il a
Nathan Aké, a été défensivement aussi bon.
C'est vrai que quand il est sorti, j'ai l'impression que ça nous a permis de respirer.
De créativité
un peu.
Aussi.
Ça nous a permis de respirer un peu plus quand il est sorti, ouais, effectivement. Oui, Philippe, tu as trouvé qui bon côté Pays-Bas?
Pas grand monde.
En fait, toi, tu regardais que l'équipe de France en fait.
Frimpong s'est battu un peu, c'est tout.
Un
petit peu.
Parce qu'il joue en Allemagne, c'est pour ça que tu dis ça.
Un petit peu, c'est tout.
Moi, je suis pas impressionné.
C'est du supporterisme, ça.
Un petit peu.
Oui, moi, cher Stéphane.
Il a participé à la très large victoire.
Côté Pays-Bas, qui ressort pour toi?
Akpo, il a été pas mal. Il a beaucoup travaillé défensivement.
Vers le début, après.
Au début, après, il a disparu. Peut-être, effectivement. C'est un mot, mais comme moi, j'aurais plutôt tendance à dire un peu comme Philippe. Moi, très, très déçu, franchement. J'arrête pas d'être déçu, mais l'Autriche, c'est meilleur que les Pays-Bas. Hein. On parlait des Pays-Bas comme ça. Si, le défenseur central, là.
Van Dijk.
Ouais, voilà. Éventuellement, lui,
il a pris plein de ballons, mais c'est des ballons faciles, quoi.
Ouais, c'est pour ça qu'il n'y en a aucun. Non, je pense que c'est pour ça que ça enfonce encore plus notre équipe. On aurait pu faire très largement mieux. Pour moi, c'était presque.
Mais moi, à chaque fois, tu répètes la même chose. À chaque fois, je te redis la même chose. Tu l'as dit la dernière fois face à l'Autriche. T'es dessus des adversaires de l'équipe de France. Et pour autant, on n'arrive pas non plus à les exploser, quoi. Donc, c'est dire le niveau de l'équipe de France.
Voilà, et à peu près à l'image de Espagne-Italie, où tu es déçu de l'Espagne parce qu'ils gagnent 1-0 avec un but contre son camp d'un Italien.
C'est ironique. Il vaut mieux que ce soit ironique parce que l'Espagne joue avec la manière. L'Espagne joue, il y a du jeu.
Contrairement
à notre équipe de France, l'Espagne joue.
On est d'accord qu'ils n'ont pas été bons, mais on n'a pas été bons contre des Pays-Bas.
Et c'est qui est rassurant quand tu vois l'Espagne, même si c'est vrai que ça reste du foot, on est sorti des phrases bateau, ça reste du foot et tout ça, mais l'Espagne te donne un peu plus de certitude quand même dans le jeu.
Ils ont quand même Morata.
On verra.
Mon cher Lucas.
Rendez-vous le 14 juillet.
Qui c'est qui ressort pour toi côté Pays-Bas?
Côté Pays-Bas, offensivement, j'ai bien aimé Gakpo en début de match et Xavi Simons qui lui est plutôt monté en puissance au fil de la rencontre. Et je trouve que la défense centrale Van Dijk de Vrij a été au niveau. Ils ont bien muselé les Français. Aké aussi. Et par contre, je suis quand même très très déçu de Dumfries aussi. Et ce duel Dumfries-Hernandez qui est explosif en club. On a accouché d'une souris, donc globalement déçu quand même de la Hollande aussi. Ils ont un effectif sur papier qui est avec beaucoup de possibilités et on n'a rien vu. Depuis deux matchs, on ne voit rien.
Garde le micro justement. Quelle est ta note sur 20 pour l'équipe de France?
8 sur 20.
Stéphane, ta note sur 20 pour l'équipe de France?
10.
Alfred?
Non, 7. Hein.
7 sur 20. Waouh.
Ouais, 10.
Philippe, 10 sur 20. Ouais. Et là, ta note pour l'équipe de France?
Ouais, je dirais 8 aussi.
8 aussi sur 20. Ah, franchement, vous n'êtes pas du tout satisfait.
Et toi, ta note?
Les amis, moi, je dirais 9. 9 sur 20. Ouais. 9 sur 20. On va évoquer les autres matchs de la journée, parce que, justement, 7 Euro 2024, il n'y a pas que la France. Tiens, la Slovaquie a perdu face à l'Ukraine cet après-midi, les amis. C'est une surprise, non?
Une surprise, Slovaquie, première mi-temps, moi j'ai regardé le match, première mi-temps, Slovaquie, ils ont dominé quand même leur sujet, et Ukraine faisait que des mauvaises choses, je me suis dit, ils vont pas s'en sortir du tout.
Jamais de la vie, tu peux parier sur l'Ukraine quand tu vois la première mi-temps.
Jamais.
Avant le match, c'est sûr, après la première mi-temps, tu te dis jamais de la vie.
C'est impossible.
C'est pour ça qu'on aime le foot, n'est-ce pas?
Oui, je pense, en parlait tout à l'heure dans l'avant-match, je pense que c'est un groupe où la vérité d'un jour va pas être forcément celle du lendemain. Mm-hmm. Donc effectivement, il y a des résultats un petit peu contradictoires d'un match à l'autre.
Donc Ukraine 2, Slovaquie 1, ça fait bouger les choses dans cette poule-là.
C'est indécis là-dedans.
Et toi, Alfred, Ukraine 2, Slovaquie 1, surprise ou pas du tout pour toi?
Surtout à la déception de l'Ukraine, parce que l'Ukraine pouvait faire quelque chose, et puis elle a très déçu.
Mais c'est l'Ukraine qui a gagné.
Oui, ils ont gagné, mais elle n'a pas fait... grande chose.
Bonne impression.
Pour moi, ils n'ont pas fait bonne impression. Ils ont gagné.
Malgré la victoire.
Ils n'ont pas fait bonne impression.
Ils reviennent de tellement loin aussi.
Mais le coach qui est toujours là, d'ailleurs. Moi, j'avais entendu.
Ils ont dû arranger ça. Peut-être qu'il a fini par écouter les joueurs. Parce que les joueurs voulaient fonctionner en autogestion, justement. Mon cher Stéphane.
Bah, moi, je dis que c'est.
Les Ukrainiens, ils t'ont bluffé ou pas, finalement?
Non, l'Ukraine, je ne l'ai pas vu, le match.
Ah, t'as pas vu? Mais si, on s'arrête sur le score. T'es surpris ou pas?
Sur le score, oui, je suis un peu surpris. Mais surtout, je dis juste que dans cet Euro, faut enterrer personne. Ça va. Des premiers matchs d'Euro, c'est pas significatif. Donc voilà,
mais il y a des équipes qui vont sortir là déjà, hein, qui vont rentrer à la maison. Hein.
Bah, au troisième match, pour l'instant, il n'y en a pas. Même la Pologne, tu dis.
Justement.
Je suis pas sûr que la Pologne soit.
Tu vas me tendre la perche, on va donner l'occasion à Lucas de réagir rapidement sur Ukraine, Slovaquie.
Je vais vous avouer que je me suis endormi pendant le match. J'ai pas été passionné par.
T'as fait ta sieste?
J'ai fait ma sieste.
Pendant l'Ukraine.
Pendant l'Ukraine-Slovaquie, ouais. Fin de première mi-temps. Le but de la Slovaquie est beau, je trouve. La tête, elle est vraiment. Le but est vraiment bien construit. Avec le latéral gauche, là, qui fait vraiment un bon travail, qui fait un super centre. Je trouve que le premier but slovaque est très bien construit. Mm-hmm. Mais après, j'ai décliné. J'ai pas tout suivi.
Ouais. Je peux te comprendre. Pologne 1, Autriche 3. Mm-hmm. Ouais. Surprise aussi, non?
Non, pas non, surprise. Non, Autriche, non. Ils ont montré des bonnes choses. Non,
pas surprise.
Pologne sont faibles depuis le début. Ouais. J'ai dit que Pologne vont finir quatrième. J'ai donné le classement depuis le début. J'ai dit Pologne, ils vont finir quatrième, c'est sûr.
Elle a le devant.
Non, mais c'est pas le devant, absolument pas. Bah, j'avais dit qu'il allait avoir un match nul entre Pays-Bas comment ça s'appelle?
La France?
Pays-Bas et la France. Bah, j'ai dit qu'elle allait avoir un match nul. Jason peut en témoigner. Hein. On était en émission juste avant.
Non, mais Stéphane et toi, vous avez donné le bon pronos. Stéphane, il a même dit 0-0.
Ah oui, oui. Stéphane l'a dit.
Ouais, donc quand Xavi Simon a marqué, il se laissait dire Metz.
Donc le match, si on perdait le match.
En plus.
Mais du coup, Autriche-Pologne, il n'y avait pas photo. Hein. Franchement, et là, j'ai raison par rapport au niveau de la Pologne, parce que l'Autriche. Ils avaient l'air vraiment nettement au-dessus, quoi. Et c'est pas le but de la Pologne qui les a fait douter. Ils remettent le troisième sur penalty. Et franchement, c'était, on dirait, vraiment match maîtrisé de bout en bout de l'Autriche. Et moi, du coup, j'étais quand même assez surpris qu'il y ait un tel écart de niveau entre les deux équipes.
Alors, les amis, demain, donc 22 juin, ça commence à monter en puissance, hein, cet Euro. Hein. Il y a un certain Georgie Tchéki. Je pense que ça peut être un match. Non, je pense que dans l'intensité. Ça va.
On a envie de voir Kvaratskhelia et Nkotadze là.
Turquie, Portugal. Ouais. Est-ce que vous pensez que
il peut avoir
des étincelles là?
Ça oui. Ça c'est le match de la journée. Ça.
Non, moi je pense plutôt que le match de la journée c'est Belgique-Roumanie.
Belgique-Roumanie,
Paris les gars. Les Belges ont tout à gagner.
Et la Roumanie aussi ont tout à gagner avec une victoire. Ils seront qualifiés historiquement. Attention.
Certainement.
Moi je pense que s'il y a un match à voir demain, c'est Belgique-Roumanie pour moi. Et toi, tu choisis quoi? Si tu avais un seul match à voir.
Non, moi je trouve que.
Georgie, Tchéki, Portugal.
Je pense que je vais tous les regarder, mais.
Non, mais si tu devais choisir.
Je choisirais celui du Portugal quand même contre la Turquie. Ouais. Parce que la Turquie, elle m'a enchanté. Ils mettent deux buts, c'est absolument sublime. J'ai oublié le nom du latéral, mais le premier but, c'est une maîtrise technique. 90% de ses frappes, elles partent en tribune. Et là, elle est vraiment parfaitement en lucarne. Non, c'était magnifique. Et même, je trouve que la Géorgie a été vraiment accrochée sur le premier match. Et le fait que la Turquie ait fini par les battre, même si le troisième but il est anecdotique, ils ont vraiment fait un bon match la Turquie, et contre ce Portugal, je pense qu'ils peuvent embêter ce Portugal là, je vois bien un bon 2-2 ou quelque chose comme ça, je vois un bon match
moi aussi.
Tu regardes quel match demain,
Turquie, mais moi je pense que le Portugal devra gagner.
Turquie-Portugal, tu regardes si je dois choisir un match, franchement
on a compris, c'est
Belgique-Roumanie.
Malik qui sera au taquet là,
je sens que ça va être chaud bouillant, je le sens.
On attend la Belgique,
contrairement à beaucoup de gens ici. J'adore la Belgique et en plus je crois en la Belgique. Donc je pense que la Belgique est loin d'avoir dit son dernier mot.
Et Belgique-France
à condition que je serais quand même pour la France. Mais à condition que, et surtout qu'on peut trouver, on peut en plus avoir un huitième de finale Belgique-France.
Hein. Ouais, à suivre les amis. Tiens, tu gardes la parole, mon cher Stéphane.
Moi, tu m'as pas demandé. Hein.
T'as dit Turquie-Portugal?
Non, c'est faux. T'as essayé d'imaginer, mais tu vas pas te
dire.
Il
peut pas dire autre chose.
Je suis obligé d'aller voir le meilleur joueur de l'univers jouer. Oui, bien sûr.
Mais moi, j'ai envie de voir Doku demain.
Non, ceci dit, quand même, petite parenthèse, moi j'ai été un peu agréablement surpris par Cristiano Ronaldo qui a fait un bon match pour le.
Mais justement, je pense que dans le bout du foot, quand on va revenir à la version, on va dire classique, je pense qu'on va faire un sujet là-dessus. Parce que je regarde CR7, grande forme. N'Golo Kanté, grande forme. Laporte, grande forme. J'en oublie, hein, mais grande forme. Et ça a été même le cas pour la CAN. les joueurs africains que j'ai vus pendant la CAN,
Sekou Fofana,
c'était des joueurs, même Kessié, tout ça, ouais, c'était des joueurs qui ont performé.
Je suis pas d'accord.
On va se poser la question. On va pas faire le débat maintenant. On va pas faire le débat maintenant.
En puissance, mais Sekou Fofana, il est super décevant en début de compétition.
Non, 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 ça se repose que sur le
jeu. C'est le seul qui m'a vu du stade. Tu l'as vu le Sekou Fofana de Lens? Tu connais le Sekou Fofana de Lens ou pas? C'est tellement un super joueur. Non, tu peux pas dire ça. Mais non, tu peux pas dire ça. Oui, il met un but magnifique, mais après, il fait quoi? Après, ils sont malmenés. Ils sont malmenés les deux matchs d'après. Ils sont malmenés les deux matchs d'après.
Oui, mais ça tient pas à lui. Mais
ça tient aussi à lui. Ça tient aussi à lui.
Et les matchs d'après, c'est lui qui fait des grosses prestations.
Non, c'est pas lui, c'est pas que lui.
Je suis désolé. Au début de la CAN, le commentaire était contraire. C'est-à-dire que tout le monde disait, tous les joueurs qui viennent d'Arabie Saoudite, ils sont pas bons.
Les amis, je vous ai dit qu'on va faire le débat dans un ou deux.
Non, mais c'est juste ça.
Mais là, vous êtes en train de faire le débat, mais c'est ma faute aussi. C'est ma faute.
T'as lancé,
c'est
ma faute. Tu as la perche.
On parle de la France. Il est intéressant.
On va parler de la Ligue 1 justement parce que c'est aussi ça notre pas hein, quotidien, si j'ose dire. La Ligue 1 reprend dans 2 mois et les amis, incroyable mais vrai, mais on ignore encore quelle chaîne va diffuser notre Ligue 1. Stéphane, est-ce que tu as du nouveau à 23h54?
J'ai pas vraiment de nouveau, ce n'est que de résumer la situation actuelle. Effectivement, le CA de la Ligue et s'est réuni aujourd'hui pour notamment présenter son plan B, son fameux plan B, qui est de la création d'une équipe 100%, d'une chaîne 100% Ligue 1. Et du coup, on a appris que le prix est passé non plus à 25, mais à 30 euros, le prix de l'abonnement, pour que ce soit rentable.
À peu près rentable.
Les diffuseurs sont là, dans le sens, les diffuseurs, les plateformes internet, hein, Orange, Freebox, sont là. Amazon sera encore dans le coup pour. Mais pour l'instant, alors, certains dirigeants s'inquiètent et croient encore à un possible retour de Canal+. Mais surtout, ceux qui ont un peu plus la tête sur les épaules espèrent voir Bein et DAZN, la chaîne
DAZN, ouais.
DAZN, les Anglais.
Mais DAZN avait proposé, non, 400 millions.
Ouais. Et la boule les a refusés.
Il les a refusés. Donc aujourd'hui, moi, je vois que
il va balayer un revers de main.
Ils acceptent, ou ils attendent tranquillement tapis dans l'ombre que ça baisse encore pour l'avoir non plus à 400 mais à 350 par exemple. c'est mort et puis ils font leur chaîne. Apparemment, on peut dire que pour ce qui est du début de saison, il y aura un diffuseur, puisqu'ils sont décidés, en tout cas ça a été approuvé. On ne connaît pas encore la position de CVC sur l'opération. Mais en tout cas, ils ont approuvé aussi. Ils étaient là à la réunion OCA, et ils ont approuvé. Donc voilà. Quoi.
Donc c'est une affaire à suivre.
Ouais,
il va falloir faire vite quand même.
On a vu le calendrier aussi. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que c'est tout le football français qui est engagé.
Ouais,
hein.
Et je sais qu'il y a un Marseille-Paris ou Paris-Marseille dès le 16 mars de mémoire. Je sais plus.
C'est au mois d'octobre. Marseille-Paris au mois d'octobre et match
retour. Donc c'est Paris-Marseille alors en mars alors.
C'est Marseille-Paris au mois d'octobre et PSG-Marseille au mois de mars.
Mars, voilà, ouais. Exactement. Les amis, un petit quiz pour la fin. On s'amuse un peu. Ça vous dit? Jason, est-ce que tu peux nous mettre un petit fond, un tapis sonore là pour nous? Un petit tapis sonore, on va faire le quiz de fin. On va s'amuser un peu, on va se détendre parce que je sens Lucas fâché là. Lucas est trop fâché avec le match de l'équipe de France ce soir là.
Je suis fâché aussi avec la Ligue 1 et cette parodie de négociation avec La Brune qui est en train de tuer, on peut le dire, le foot français.
Ouais, mais bon. Ouais. Bah, on va voir. D'ailleurs, La Brune hein, qui est fortement discutée, hein, eu égard.
On a appris qu'il avait quadruplé
avec son salaire qui avait quadruplé.
On ne sait pas
pourquoi. Je crois que c'est 400 000
de 300 000 à 1 million d'euros par an.
On ne va pas refaire l'histoire, mais si Deniso avait été élu homme de télévision, ça aurait peut-être été un petit peu différent.
J'en suis sûr. J'en suis sûr.
Seulement que Canal aurait raflé la mise. Sait-on jamais. Affaire à suivre, donc. Les amis, le quiz. En quelle année a eu lieu le premier championnat d'Europe de football? Je veux l'année.
1960.
Oh là là, un collab, mais c'était où?
Je sais pas, c'est la Russie qui avait gagné.
En France, c'était en France.
Ouais, c'était en France, mais c'est l'URSS qui avait gagné. Ouais.
Et on est arrivé dernier, justement.
Ouais.
Il y avait quatre équipes, pardon. On commençait par la demi-finale.
Ligue des champions, 93.
Alors, deuxième question, les amis. Quel pays a remporté le plus grand nombre de titres de champion d'Europe?
Espagne, Allemagne, 3.
Allemagne,
Espagne.
Philippe, il est incollable.
Allemagne, Espagne.
Super rapide.
Quel joueur détient le record du plus grand nombre de buts
Platini.
Marqués? Oh,
tu vois son détroit quand t'as
je vois pas, mais la question c'est très bien.
J'allais dire,
c'est très bien, je vois pas l'écran.
Il allait dire une compétition ou sur l'Euro.
Sur tous ces précédents Ronaldo, mais sur une compétition c'est Platini 84 qui avait. J'ai senti
avec 9 buts.
Personne n'avait fait qu'un match. Personne n'avait jamais plané sur une compétition comme
lors de l'Euro 84.
Et tu sais qu'il y a un match où il marque avec 3 buts, un du gauche, un du droit.
C'était en 5 matchs à l'époque.
Dans le stade. Ma pomme.
Oui, oui.
Ah ouais, ouais, respectez l'expérience. En quelle année le format de l'Euro est-il passé de 8 à 16 équipes participantes?
2016, non?
Non, ça c'est 16 à 24.
De combien? De 8 à 16?
Ouais.
Alors attends,
on est passé de 8 à 16 en quelle année?
2012.
92?
C'est pas 96?
1996. Le directeur est là.
Les anciens qui
font un truc pour Philippe. Ils cartonnent tout ici, là.
96 en Angleterre?
Ouais. Oui, quand l'Allemagne gagne, oui.
Quel pays a remporté l'Euro 2004 dans une surprenante
Grèce.
Victoire?
Grèce. Ouais,
ça,
la Grèce.
Ça, c'est facile. Ouais. Et puis, dernière question, les amis. Quel joueur a remporté le Ballon d'Or après ses performances à l'Euro 1994?
Van Basten.
Ah, 84.
Platini.
Platini,
oui,
j'allais dire.
88,
c'est Platini.
Platini,
on va remercier Kali, on va remercier Jason, on va remercier le Média Houdiné, YouTube, Mon Paris FM, et puis monparisfm.com. Voilà, Alfred, lui, il est dans une autre sphère. Il est dans sa propre galaxie.
Il a la cadre, là.
On va se remercier la semaine prochaine. Salut.
Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.